Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous, et vous avez raison d'être sur Radio Kapi. C'est l'heure de faire le point sur les faits marquants de l'actualité. Bienvenue dans votre journal présenté par Gisèle Cage. Voici les principaux titres de l'actualité. Frontière RDC-Ouganda, la fraude au cacao stoppée net. À Kasindi, le service de sécurité saisit une cargaison illégale et promet une traque sans relâche des contrebandiers. Lubumbashi, l'ONU à l'écoute des jeunes. Le sous-secrétaire général chargé de la jeunesse échange avec les structures locales sur les défis et aspirations. En fin de journal, Saïdi Gigi Masomo, notre invité, l'enseignant de l'ISP Kindu, analyse la réforme de l'examen d'État 2026, l'oral d'anglais rejoint celui de français. Nous ouvrons ce journal avec un coup de filet spectaculaire à la frontière RDC-Ouganda, mercredi dernier à Kasindi, dans le territoire de Beni. Nous sommes en Nord Kivu. Les services de sécurité ont intercepté une importante cargaison de cacao destinée à l'Ouganda. Les véhicules impliqués dans cette fraude ont été saisis et ramenés à Beni pour enquête. Les conseillers économiques du gouverneur prévient, tous les fraudeurs seront traqués et sanctionnés conformément à la loi. Écoutez David Kamua dans cet extrait choisi par Marc Marofimbo.
Comme vous le savez, nous sommes pendant la période des grandes saisons et nous remarquons que les fraudeurs ne tarissent pas d'initiative pour changer des mécanismes de fraude. Comme vous le constatez ici, il s'agit de 16 bidons en apparence transportant de l'huile de palme, mais alors qu'en réalité, il s'agit du cacao. Et ce cacao a été saisi à Kasindi et nous annonçons ici au nom de l'autorité que nous allons poursuivre cette opération pour décourager tous les fraudeurs. Et désormais, le cacao saisi sera vendu et les résultats de cette vente sera affecté à la construction des infrastructures. Donc ici, nous voulons dire à tout le monde qui s'adonne à la fraude que désormais, la province et tous les services sont sans pitié puisque nous n'allons pas pardonner. Nous allons vendre tout ce que vous voyez là-bas. Vous voyez les gros camions derrière moi. Il y avait une grande quantité et vous voyez les bidons qui sont ici. Et toute cette quantité sera vendue pour les comptes du trésor, mais également pour être affectée aux infrastructures. Donc, nous voulons encourager les services ici qui ont contribué et leur demander de redoubler encore d'efforts.
Il y a deux semaines, les services de sécurité avaient déjà intercepté une autre cargaison de cacao transportée en camionnette, toujours au poste frontière des Kasindi-Lubiria. En Ituri, la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, tire la sonnette d'alarme. Cette ONG dénonce plusieurs violations de droits de l'homme dont sont victimes les habitants d'Otmaber, dont les territoires d'Irumu. Dans une déclaration faite ce samedi, elle cite notamment les cas récents d'un acheteur des cacao arrêté puis torturé par la police pour des raisons encore inconnues. Martial Kiza Biamungu nous fait le point.
D'après la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, le jeudi 27 novembre, le commandant de la police nationale d'Otumaber, à environ 105 km au sud de Bouya, a ordonné l'arrestation arbitraire d'un homme d'une trentaine d'années avant de lui infliger des actes de torture. Toujours selon la CRDH, le péché de la victime est d'avoir acheté du cacao chez un agriculteur qui avait déjà pour client un ami du responsable de la police d'Otumaber. Cette organisation parle de violations graves des droits de l'homme et appelle à l'intervention des autorités pour mettre fin à ce qu'elle qualifie d'abus de pouvoir pour certains responsables des services de sécurité dans cette région, plusieurs fois victimes des attaques des rebelles des ADF. Christophe Mouyaderou, responsable de la CRDH Irumu. Contacté, le commandant de la police nationale congolaise à Otumaber n'a pas voulu se prononcer à ce sujet. Bounia, Martial Kizabiabungu, Radio Okapi.
Direction la Tchopo où la colère gronde. Les agents de la chancellerie de la direction régionale des ordres nationaux relevant de l'ex-province orientale dénoncent 20 mois sans salaire depuis le deuxième trimestre 2024 dans un mémorandum adressé au vice-premier ministre en charge de la fonction publique et rendu public hier vendredi. Ils parlent de détournement pur et simple. Selon eux, aucune justification administrative ne vient expliquer ces non-paiements. Écoutez un extrait de ce document lu devant la presse par leurs représentants à l'esplanade de la poste sélectionnée par Jacques Moukonkolé.
Les informations en notre possession indiquent clairement qu'une rétention illégale et ou un détournement de fonds destinés à la rémunération des agents et cadres. Préjudice causé, non-paiement prolongé du salaire de base, grave atteinte aux droits sociaux des agents qui travaillent chaque jour, dégradation des conditions de vie et de travail. Nous exigeons ce qui suit. Le paiement immédiat et intégral de nos salaires de base depuis 2004 à nos jours. En conséquence, nous accordons un délai de 72 heures à dater de la réception du présent mémo pour que des solutions concrètes et vérifiables soient apportées. À défaut, nous réservons le droit d'engager des actions syndicales conformément à la loi. Saisir l'inspection générale de finances, IGF. Nous espérons qu'une solution diligente sera trouvée pour préserver l'image de la première institution, présidence de la République. Nous vous prions, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, d'accorder un bénéfice intégral de notre mémo.
À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé de la jeunesse était en visite ce vendredi dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il a échangé avec des jeunes issus des différentes structures, une rencontre au cours de laquelle ces derniers ont exposé les défis majeurs auxquels ils font face. Le point avec Paula Munanga.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de la jeunesse dans la résilience et la consolidation de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il est aussi question de promouvoir la stratégie jeune des Nations Unies à l'horizon 2030. Les jeunes de Lubumbashi ont profité de l'occasion pour exposer au sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la jeunesse, Philippe Pollier, les multiples défis auxquels ils font face. Quelques jeunes s'expriment.
Si je vais prendre un cas isolé des personnes atteintes d'albinisme qui sont plus frappées d'un problème de cancer, d'un problème de la peau, parce que ce sont des personnes abandonnées à leur triste sort.
Les défis, c'est la pollution élevée. Nous, ici dans le Haut-Katanga, nous sommes dans une province à caractère minière. Nous avons un manque d'infrastructures qui est quasiment criant, surtout dans le domaine du recyclage. Des entreprises de recyclage doivent être implantées, tenues par les jeunes, pour les jeunes.
En réaction, Philippe Pollier, sous-secrétaire général des Nations Unies en charge de la jeunesse, annonce qu'il a entendu les messages des jeunes et il fera rapport au niveau des hauts représentants des Nations Unies. Il précise que ces problèmes ne seront pas résolus uniquement par les Nations Unies, mais avec le concours du gouvernement et d'autres partenaires. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Réforme de l'aménagement du territoire en RDC, renforcer la collaboration et harmoniser les actions pour une mise en œuvre efficace. C'était l'objectif de la table ronde multi-acteurs qui s'est achevée hier vendredi à Mbandaka. Pendant ces assises, les participants ont débattu de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et réfléchi aux stratégies pour garantir sa conservation et sa pérennité. Les détails avec Askanzi Biatayoro.
Au cours des travaux, le gouverneur de l'Équateur a souligné que sa province est écologique, ce qui permet à la province de contribuer à la lutte contre le changement climatique à cause de ses immenses forêts. Boloko Bolumbu Bobo invite tous les participants et bailleurs de fonds d'accompagner sa province dans le travaux d'élaboration du plan provincial d'aménagement du territoire et des plans simples et locaux de gestion des forêts. Pour plus d'efficacité des activités menées sur le terrain, l'autorité provinciale a recommandé le travail en collaboration entre les ministères provinciaux de l'Intérieur, Affaires coutumières, Aménagement du territoire et Affaires foncières pour l'élaboration de la cartographie des villages en vue de prévenir les conflits intercommunautaires. Deux territoires, à savoir Ingende et Lukolela, ont déjà mis en œuvre leurs plans simples et locaux de gestion des espaces de forêt, précisément dans le secteur de Bokatola et Lusanganya. Au cours de ces assises de trois jours, deux lois ont été vulgarisées, notamment la loi sur l'aménagement du territoire et celle portant protection de peuples autochtones pygmées en RDC. Cette activité est organisée par l'ONG Groupe d'Action pour Sauver l'Homme et son environnement gâché en collaboration avec le gouvernement provincial de l'Équateur, initiative interreligieuse pour les forêts tropicales, le tout sous le financement de Rainforest Norvège.
Retour à Kisangani, l'agence belge de coopération internationale Enabel renforce la gouvernance et l'efficacité institutionnelle de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Dans ces cadres, elle a remis hier un important lot de matériel informatique destiné à améliorer le fonctionnement de l'institution. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui institutionnel porté par Enabel. Les précisions avec Jacques Moukongolé.
Cet équipement informatique est constitué notamment d'ordinateurs, d'imprimantes et d'accessoires. Selon Prosper Ntema, programme manager d'Enabel, ce matériel va permettre de renforcer les capacités organisationnelles de cette institution, d'améliorer l'efficacité et la célérité dans le traitement des dossiers législatifs et administratifs. Autre avantage, favoriser une meilleure traçabilité et transparence des processus. Désormais, précise Prosper Ntema, l'Assemblée provinciale va travailler en réseau Wi-Fi, lui permettant de pouvoir se connecter grâce à son smartphone mis en place pour sa visibilité dans les réseaux. La rédévabilité de l'Assemblée provinciale est donc garantie pour être connue par la population et le monde entier. Prosper Ntema insiste sur un bon usage de ces équipements afin de garantir leur durabilité et maximiser leur impact. Tout en remerciant Enabel pour cet appui, le président de l'Assemblée provinciale, Mathéus Kangalondimo, le rassure de l'utilisation efficiente du matériel reçu. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Kasaï Central, sensibilisation contre les violences basées sur le genre. C'est samedi le centre d'appui au développement rural et à la sécurité alimentaire a organisé une activité de sensibilisation sur les dangers liés au CESTAP au profit des communautés de la zone de santé des Tchikadji dans la commune de Nganza. Cette initiative soutenue par le programme alimentaire mondial PAM s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les détails avec André Katendinga Lamouloumé.
Environ 70 personnes de la zone de santé de Tchikadji, parmi eux hommes et femmes, ont pris part à cette activité de sensibilisation. D'après Dimi Moula, chargé des projets au Kadersa, plusieurs filles et femmes sont victimes de sextape sur les réseaux sociaux au Kasaï Central. Des vidéos et photos sont montées contre elles pour les escroquer ou porter atteinte à leur dignité ainsi que celle de leur famille. Il indique que cela affecte le mental des victimes et certaines parviennent même à se suicider. L'objectif de cette sensibilisation était d'apprendre à ceux qui étaient présents sur comment dénoncer les cas ou les menaces de sextape, mais aussi l'attitude à prendre face à une victime. La sensibilisation était bénéfique pour le participant. Élisée Tufouaka, l'une d'eux, fait savoir qu'elle a appris à dénoncer les cas de sextape via le numéro vert 49 11 11 ou auprès des autorités, mais également comment prodiguer des conseils aux victimes. Elle a aussi promis de sensibiliser d'autres membres de la communauté sur ce phénomène. Kananga, André Katindina Lamouloumé, Radio Okapi.
Environnement et hydrocarbures, le gouvernement congolais entend renforcer le respect des évaluations environnementales dans les secteurs des hydrocarbures. C'est dans ce cadre que des experts des ministères des hydrocarbures et de l'environnement ont validé ce vendredi l'avant-projet d'arrêt interministériel consacré à cette question. Ce texte vise à soutenir la mise en œuvre de la politique nationale et à consolider les engagements du pays dans les activités liées à l'arrêt de plus. Les explications avec Blaise Ndonga Lamayanda.
L'avant-projet de cet arrêté a été validé par des experts venus du secrétariat général aux hydrocarbures de l'Agence congolaise de l'environnement et du cabinet du ministère de l'environnement. Ces textes dotent les ministères des hydrocarbures et de l'environnement d'un cadre légal de collaboration en matière d'évaluation environnementale dans les secteurs des hydrocarbures. Elvis Pemba, expert en hydrocarbures, est persuadé que cet arrêté interministériel apportera plus d'assurance et de sécurité aux opérateurs œuvrant dans ces secteurs.
Nous approchons un peu plus de la gestion harmonieuse des questions environnementales dans le secteur des hydrocarbures. Il ne sera plus question de démarches cavalières, ni du côté de l'environnement, ni du côté des hydrocarbures. Et donc, ça apporte plus d'assurance, plus de sécurité.
Dans le souci d'appuyer l'atteinte des jalons, le gouvernement congolais, en accord avec l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, souhaite que les ministères sectoriels concernés pilotent les processus pour atteindre les engagements politiques pris par la RDC. Dans ce cadre, le ministère des Hydrocarbures, à travers son secrétariat général, a bénéficié d'un appui technique du programme des Nations Unies pour le développement et d'un accompagnement financier des CAFI dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie RED+.
Actualité internationale. Le président américain Donald Trump a averti ce samedi que l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela, Venezuela, devrait être considéré comme entièrement fermé dans le cadre de l'escalade des tensions avec les dirigeants de gauche Nicolas Maduro. À toutes les compagnies aériennes, pilotes, trafiquants de drogue et trafiquants d'êtres humains, a écrit Donald Trump sur les réseaux Truth Social. Veuillez considérer l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela comme entièrement fermé. Cette déclaration intervient alors que l'administration Trump intensifie sa lutte contre les cartels de la drogue en renforçant la pression sur les Vénézuéliens par un déploiement militaire majeur dans les Caraïbes, incluant les plus grands porte-avions du monde.
L'invité.
Aujourd'hui, nous recevons Saïdi Guigui Massomo, enseignant des langues au département de français et langues africaines de l'Institut supérieur pédagogique ISP de Kindu. Il partage avec nous son point de vue sur une nouveauté importante dans la passation de l'examen d'État édition 2026. L'oral d'anglais rejoint désormais celui de français dans la partie hors session conformément à la décision de l'inspecteur général de l'enseignement en RDC. Saïdi Guigui Massomo s'entretient à ce sujet avec Florence Kizalunga. Suivez.
Monsieur Saïdi Guigui Massolo, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Introduction de l'anglais dans l'oral à l'examen d'État, est-ce une innovation ou non?
Madame Florence, pour la nouvelle génération, c'est une innovation. Mais pour les anciens, ce n'est pas une innovation, puisque ce système a existé. C'est à un certain moment, la hiérarchie a pris la décision de mettre l'oral de côté et de prendre l'écrit. Là, moi-même, je suis témoin. En 1973, quand nous sommes passés par l'examen d'État ici à l'ENANO, c'était de l'oralité. Pour l'anglais, c'était l'oral. Et je connais même la dame de CAM qui m'avait interrogé, une dame américaine. Et les anciens de l'ENANO vont se rappeler de Eddie Vancourt qui nous interrogeait oralement.
Qui doivent faire les écoles, qui doivent exécuter alors cette mesure?
Comme la pratique n'était plus de mise, ils doivent prendre des précautions, des stratégies appropriées pour permettre d'améliorer leurs enseignements au profit de ces élèves-là qui doivent apprendre l'anglais et mettre un peu un accent particulier sur des exercices qui permettent à l'apprenant de parler beaucoup. Et quand l'apprenant parle, il peut parler même avec des fautes, quitte à l'enseignant de corriger et d'encourager. Puisque si on se met à décourager quand quelqu'un parle, il risque d'être froissé et il ne va plus parler. L'anglais, c'est comme toute autre langue qu'on apprend. Alors, pour nous, c'est du bien.
Alors, M. Guigui, je crois que cette innovation touche et interpelle aussi les écoles de formateurs, de professeurs, par exemple les ISP, c'est-à-dire Institut supérieur pédagogique, qui organise l'anglais aussi.
Oui, Madame Florence, ici nous parlons en aval, mais en amont, il faudra que ceux qui doivent donner des leçons d'anglais doivent être outillés par ces institutions, par exemple les institutions supérieures pédagogiques qui organisent le département, pour le moment on appelle mention d'anglais. Ce département doit prendre des précautions, envisager d'autres stratégies qui peuvent permettre à ceux qui sont formés au niveau des ISP, tout d'abord il y a deux facteurs, d'être compétents et d'être performants, afin qu'ils soient capables d'enseigner ceux qui quittent les ISP pour être compétents et performants au niveau des écoles secondaires. Alors comme ça, ça sera une donne qui va permettre aux autres de bien parler, de maîtriser et l'oral et un peu d'écrit.
Vous faites allusion aux enseignants, aux professeurs d'anglais, alors quelle attitude adopter avant, pendant les cours et aussi aux évaluations?
Là, avant de vous parler de l'attitude à adopter, je vais condamner l'attitude caporaliste. Madame Florence, qu'est-ce qu'on appelle l'attitude caporaliste? C'est arrivé même au cours de mathématiques, les apprenants ne comprennent plus. La première phrase d'un professeur va dire les mathématiques sont difficiles. Je pense que vous n'allez pas comprendre. On prédispose l'apprenant à ne pas happer cette proie. Alors, l'attitude, ça doit être une attitude d'un engouement, une attitude qui permet aux apprenants d'aimer tout d'abord l'anglais, d'aimer l'enseignant, et ils doivent partir des notions qui sont élémentaires, du simple au composé, pas commencer à faire de n'importe comment, qui peuvent rendre ces apprenants-là un peu bizarres pour ne pas accepter de l'anglais. Or, l'anglais est incontournable dans ce monde.
Par rapport à l'identité de l'homme congolais, deux langues font concurrence. Quel en serait alors l'avenir de nos langues?
Je vous dirais, madame, qu'il y a la langue française, adoptée par notre législateur pour être la langue de communication. Il s'ajoute l'anglais. Mais nous avons aussi l'identité. Qui dit apprendre le français? Oui, pour la communication internationale, pour les recherches, l'anglais. L'année de même, pour les communications internationales et tout ça. Mais de toutes les façons, nous devons rester aussi authentiques. Nos langues ne doivent pas être rejetées. Ou pour dire, ce sont des bassins, comme ça se dit. Non, nos langues restent langues, mais même à concurrence, on s'identifie par la langue, c'est ça. La communauté est identifiée par la langue. Maîtriser votre langue, c'est bien. C'est ce qu'on parle. La langue première, vous allez à la deuxième langue et troisième langue. Quand vous apprenez, par exemple, ici chez nous, vous connaissez le swahili. Vous pouvez parler l'anglais, vous pouvez parler le français. Vous connaissez le chiluba, par exemple. Dire que quand on connaît l'anglais, on connaît le français, il faudra rejeter nos langues. Là, nous risquons de ne pas avoir l'identité. On est congolais, on doit s'identifier par une langue et ensuite, on va vers d'autres langues, d'autres horizons.
Un mot à tous les apprenants.
Aux apprenants de comprendre que c'est ça, l'évolution nous exige à changer la donne, à ne pas rester statico. L'anglais n'est pas difficile, il suffit seulement de s'y mettre et d'avoir cet amour-là. Ils vont parler et ça ne sera pas une baguette magique. Nous commençons cette année, deuxième année, vous verrez, à l'espace de 5 ans, on verra ceux qui parlent couramment.
Monsieur Saïd Guigui-Massolo, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, Madame Florence.
C'était Saïdi Guigui Massomo, enseignant de langue au département de français et langues africaines de l'Institut supérieur pédagogique ISPE de Kindu qui nous a livré son analyse sur l'intégration de l'oral d'anglais aux épreuves hors session de l'examen d'État 2026 aux côtés du français. Merci à lui et à Florence Kizalunga pour cet entretien. C'est la fin de cette édition du journal. À la présentation, Gisèle Cage avec à la mise en onde Didone Nyangasa et à la coordination éditoriale Jude de Mister Bilonda. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations détaillées, rendez-vous sur notre site officiel www.radiocapi.net. À très bientôt.